je vous parle aujourd'hui d'un sujet un peu plus sérieux. Puis soyez très, très à l'aise de réagir parce que je pense que ça va faire réagir. 88-971-1021. Il y a un peu plus que deux semaines, sortait l'annonce d'une nouvelle mesure là, bon, reliée à Santé Québec par rapport au fait que les infirmières praticiennes allaient pouvoir prendre des patients en première ligne. Ça a fait beaucoup réagir positivement sur le moment parce que Crimbin, on va se le dire comme simple citoyen, comme petit peuple, on a de la misère à avoir un médecin, on a de la misère à avoir accès à des soins de santé, c'est le bordel. Fait que de savoir qu'il y a une aide supplémentaire, ben on se dit, Crimbin, c'est parfait, ça va désengorger, je vais être capable peut-être de voir quelqu'un plus rapidement pour moi, pour les enfants, peu importe. Y a un angle auquel j'avais jamais vraiment pensé parce que nous, on a le sentiment que c'est une solution. Mais à l'interne, pour certains médecins de famille, pour certains professionnels, ils ne sont pas certains que c'est une bonne solution à long terme. Il y a un autre côté de la médaille qu'on n'a peut-être pas vu. Et c'est un médecin de famille, en fait, qui m'a contacté pour me dire « Est-ce que je peux me permettre de te donner mon avis de façon anonyme sur ce que j'entends autour de moi, sur ce que je pense, sur ce que je vois que ça va donner à long terme?
» Toi, c'est un médecin que tu connais, là.
Oui. Okay. Fait que je sais qu'il est médecin de famille.
Il veut rester anonyme parce qu'il veut pas se faire écœurer avec ses opinions.
Ben honnêtement, on sait que c'est un sujet qui polarise. Ouais. Fait que lui, c'est juste de peut-être faire voir un autre côté qu'on voit pas nous. Nous, on voit juste du beau à ça, mais c'est peut-être pas juste ça. Puis je me positionne pas, mais je vous laisse écouter, puis je vous laisse faire vos propres idées.
Parce que la majorité des gens se disent « Ah, ben plus on a de l'aide pour nos médecins, plus les médecins vont pouvoir se délester de certaines tâches qui, eux, ont pas nécessairement besoin de faire. » C'est ce qu'on avait l'impression, comme tu disais. On s'est dit « Tiens, il va avoir de l'aide pour les médecins. » Lui, il voit ça carrément autrement. Là.
D'un autre angle. Puis les études aussi, en ce moment, parce que là, veut pas, vu que ça fait réagir, il y a du monde qui font des études, hein, disent que c'est pas vraiment une solution de donner ces responsabilités-là aux IPS, aux super infirmières. Sauf que les médecins ne suffisent pas à la tâche. On le sait, on le sent. Fait que c'est difficile d'être contre cette mesure-là aussi à un certain point. Pour faire un peu un topo, là, les super infirmières, c'est la même chose, les IPS, là, ont l'autonomie complète sans supervision du médecin depuis à peu près deux semaines. Le but, c'est d'augmenter l'offre de services de première ligne, évidemment. Puis, c'est pas nouveau parce que c'est depuis 2021 que les IPS peuvent faire des diagnostics, des plans de traitement. Par contre, c'était sous supervision du médecin. Fait que ce soit pour des affaires comme diabète, hypertension, asthme, c'était quelque chose qui était possible. Et ce qu'on dit, en fait, ce que Christian Dubé nous dit dans ses conférences de presse, c'est que pour 95 % des cas, les infirmières praticiennes n'ont pas besoin du médecin. Fait qu'elles vont pouvoir prendre en charge peut-être éventuellement 250 à 800 patients. Encore une fois, ce qui sonne très beau. Ce qu'il faut dire pour l'instant, en passant, là, c'est que cette mesure-là s'applique juste dans les 11 cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées au Québec. On en prévoit 8 autres éventuellement. Mais ça, ça fait en sorte que c'est 40 infirmières praticiennes sur 1800 en ce moment qui peuvent voir des gens en première ligne. C'est vraiment peu. Là.
C'est
ridicule. Mettons qu'on est honnête, ça ne change pas grand-chose pour l'instant, cette mesure-là. Mais ça fait réagir et c'est surtout que c'est le début et c'est à long terme qu'on se pose des questions. Et c'est le dernier pas, l'autonomie. C'est ça, c'est un projet de Gaétan Barrette à la base là, qui a initié la formation dans les universités du Québec pour les IPS. On visait 2000 super infirmières en 23-24, puis on s'approche de ce chiffre-là. Fait que ça se passe bien de ce côté-là. Par contre, ça ne fait pas l'affaire des médecins de famille. Et là, je veux vous présenter quelques extraits de notre conversation parce que je trouve ça super intéressant. La première question que j'ai posée aux médecins avec qui j'ai parlé, c'est est-ce que c'est vraiment une solution de mettre les IPS directement avec les patients en première ligne?
Pas du tout. C'est plus de service. C'est un peu comme c'est de la poudre aux yeux un peu là. Ce que ça va créer, c'est un, c'est des soins de moins bonne qualité. Deux, de moins en moins de gens vont aller en médecine familiale. Fait qu'on va rajouter le nombre de praticiennes, puis on va diminuer le nombre de médecins de famille. Puis en diminuant la qualité des soins, en augmentant les références aux spécialistes, en augmentant les demandes de laboratoires, d'imagerie qui sont complètement inutiles, qui coûtent cher à la population. Fait que c'est. Tu sais, ce vaste communicant, puis malheureusement, il va péter d'un côté, puis il va diminuer de l'autre.
Okay, il est assez arrêté sur ses opinions, là. Il est persuadé, lui, que des infirmières seront pas capables de donner un service de qualité, là. Ça vient de lui?
Oui, totalement. Puis vous allez l'entendre, il devient de plus en plus nuancé, puis il explique ses pensées. C'est une question d'étude. Il doute pas de la compétence de ces gens-là dans leur corps de métier, mais pour lui, c'est deux pratiques complètement différentes.
Parce qu'il y en a des erreurs. On s'en parlait, toi et moi, dans le corridor tantôt. Tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont dans le merveilleux monde de la santé. Puis, tu sais, des histoires de médicaments qui sont donnés à un patient puis que ça finit au grand brûlé à Québec, là. Je veux dire, il y en a énormément. Une histoire d'allergie à la pénicilline qui n'avait pas été détectée avant. donne un médicament, pouf, c'est soit qu'il pouvait être infecté de l'intérieur, soit de l'extérieur. Puis il y a eu la plus belle des formes, c'est-à-dire qu'il y a eu comme des brûlures sur le dessus de sa peau. Mais si ça avait été à l'intérieur, et puis même en mourir, juste parce que la dame n'avait pas nécessairement consulté les allergies du patient. Tu sais, toi, t'es dans le coma. Tu veux dire quoi? Tu peux rien dire.
Il faut dire à la base que c'est ça. Ça ne communique pas. Là, nos dossiers ne se communiquent pas à travers les hôpitaux. Fait que ça, c'est un autre problème du système de
travaille
santé.
Travaille là-dessus. Puis la nouvelle PDG, elle va avoir ça, le virage numérique dans ses tâches. Puis c'est vrai.
Oh, oui.
Mais ce matin, en disant, elle aura ça dans ses tâches, j'ai toussé. Mais j'avais pas de maux de gorge.
tu parles, Yann, des médecins. Ça, c'en est un autre problème. Il y a beaucoup de patients qui sortent fâchés de chez le médecin de famille parce qu'il y a des prescriptions d'antibiotiques qui sont refusées. C'est parce qu'on est plus serré dans ce qui est prescription, contrairement à peut-être certaines infirmières, infirmières praticiennes qui auraient la prescription plus facile pour des raisons évidentes qui sont simplement un manque de formation. Dans les autres problèmes, l'escalade d'investigation qui n'est pas nécessaire. Tu sais, le manque de formation chez les IPS les amène à aller à la pêche. Ce que je veux dire par là, c'est que tu rentres dans le bureau, on ne sait pas trop ce que tu as, on va évaluer, on va faire des prises de sang, on va consulter tel spécialiste, puis ça amène une charge de travail supplémentaire dans le réseau. Ça retarde les spécialistes, les laboratoires. Fait que ça fait un effet boule de neige comme mesure qui est un peu démesurée justement avec le temps. Fait que vous l'avez entendu, pourquoi ça ne fait pas l'affaire des médecins de famille? Bien, ça dévalorise un peu le métier, la pratique. Il faut savoir aussi que les médecins de famille se battent pour avoir en ce moment un an d'études de plus vu l'évolution de la médecine. Fait qu'eux autres trouvent déjà que leurs 10, 11, 12 ans, là, c'est pas assez puis que ça évolue tellement vite qu'il faudrait qu'ils aient cherché de la formation supplémentaire. Fait que pour eux autres, il y a une ironie de voir que bien là, on va demander à des infirmières praticiennes spécialisées qui ont 3 ans de bac, puis bon, 2 ans de maîtrise supplémentaire pour être praticienne, de devenir comme un médecin du jour au lendemain. Tu sais, ça manque un peu. J'ai demandé au médecin avec qui j'ai parlé ce matin, c'est pas de l'ego mal placé de la part des médecins par hasard, toute cette réaction-là, c'est une question d'argent. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, là, tout d'un coup, ça fait pas l'affaire quand, au final, on est censé les aider avec ça, peut-être, à diminuer la tâche? Puis, il m'explique bien pourquoi c'est pas de l'ego mal placé, puis la différence aussi entre les médecins et les IPS au niveau des études puis des formations.
Ben non, mais nous aussi, on aimerait aider plus la population. C'est qu'il n'y a pas assez de médecins de famille. Il faut valoriser plus la profession. Il y a de moins en moins d'étudiants en médecine qui appliquent à médecine familiale, à la résidence. Il y a de plus en plus de postes non comblés parce que c'est une profession qui est de moins en moins attractive, surtout au Québec, avec les changements que Dr. Barrette a fait. Après, début des années 2000, ils ont voulu sortir les médecins de famille des bureaux, les mettre à l'hôpital. 10 ans plus tard, ils ont fait le contraire. Ils jouent avec le travail des médecins de famille constamment. Puis ça rend ça moins intéressant pour les jeunes étudiants d'appliquer. Il y a aussi une lourdeur administrative. Un médecin de famille aujourd'hui, pour faire... Tu sais, on parle de salaire moyen des médecins de famille au Québec, dans les journaux et tout ça, mais pour faire ce salaire-là en travaillant au bureau, il faut voir 6 patients à l'heure. Ça, c'est accorder 10 minutes au patient, puis avoir 6 à l'heure. Ça fait une lourdeur incroyable pour les gens, puis aussi pour les patients qui ne se sentent pas écoutés parce qu'ils ont juste 10 minutes avec le médecin. Mais c'est ce que les changements gouvernementaux ont amené, c'est ça un peu, là. Oui, je connais beaucoup de médecins de famille qui sont au bord du burn-out. C'est parce que la lourdeur des tâches, la lourdeur des patients est trop intense par rapport au nombre de médecins de famille qu'il y a.
Puis tu penses pas justement que d'amener des infirmières praticiennes à pouvoir donner un coup de main aux médecins, ça peut pas alléger justement le travail des médecins de famille?
Non, parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire pour faire ça. C'est illusoire de penser que... dans leurs 3 ans de bac, ils font pas du tout la même chose que nous. Nous, c'est 3 ans de doctorat de premier cycle. Après ça, c'est 2 ans de stage, puis un autre 2 ans de stage. Les infirmières praticiennes font 3 ans d'études, qui pas du tout pareil. C'est des études qui sont très... que je valorise et que je respecte. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est la même chose que dire pour quelqu'un qui fait 3 ans d'ergo. Après ça, il rajoute 2 ans d'études, puis il devient ergothérapeute praticien. C'est pas le même champ de compétences. La médecine est vraiment axée sur le diagnostic et le thérapeutique, alors que les sciences infirmières sont pas nécessairement là-dedans. Après ça, dans leur maîtrise pour devenir infirmière praticienne, ils ont seulement 6 mois de stage. Si on compare avec nos 4 années de stage, c'est pas du tout la même chose. On peut pas expecter qu'ils aient les mêmes connaissances pour faire un travail similaire. C'est mentir à la population, là.
Okay, je veux revenir sur le 6 patients à l'heure. T'sais, moi, je pensais que c'était une moyenne, là, mais c'est ce qu'on demande techniquement aux médecins, d'être capable de faire 6 patients à l'heure. Il y a combien de 10 minutes Dans une heure?
Mais il y en a six.
Il y en a six. Ça va vite en sacrifice.
C'est impossible.
Là. C'est impossible.
Moi,
d'y
juste
arriver.
Ma médecin de famille, là, je sais que quand j'ai un rendez-vous à 10h30, ben, je vais passer à 12h15.
Ouais.
Puis c'est ça, puis je fais avec parce que ça va tellement vite, mais quand tu es dans son bureau, elle prend le temps.
C'est ça. Puis mais c'est impossible tard, d'arriver à 10 minutes.
C'est impossible.
Moi, j'ai des gens autour de moi, puis j'en avais parlé avec le président du Collège des médecins, le directeur général du Collège des médecins.
Tu sais,
tu rentres dans le cabinet. Puis là, t'as comme, tu sais, les gars, on accumule des problèmes avant d'aller voir le médecin. Là, t'as comme trois affaires. Ben, tu te fais dire, parfois, pas tout le temps, mais tu te fais dire un problème, une visite. Tu vas devoir revenir deux autres fois pour passer la maudite carte d'assurance maladie qui fait en sorte que le médecin va avoir son chèque.
Ouais, mais là, ouais. Il y en a des comme ça. Je pense pas, par exemple, qu'il faut être de mauvaise foi.
C'est ce que le monsieur du Collège des médecins disait. C'est qu'il disait, lui, que c'était des légendes, mais j'ai plein de monde autour de moi qui se sont fait dire ça par les médecins. Un problème. Une visite.
Mais là, au-delà de l'argent, on s'entend-tu que tu passes trois problèmes, toi, en 10 minutes?
Ah, moi, je suis capable.
OK, toi, t'es capable.
J'ai une bursite à hanche, j'ai un petit problème à l'épaule.
Mais ouais, j'aurais aimé ça entendre le médecin dire, alors, puisque nous sommes inquiets ou nous pensons que les études ne sont pas les mêmes, on pourrait leur laisser telle affaire dans leur cours pour nous... Parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ose croire qu'elles sont capables de faire.
Ah, mais la question n'est pas là en passant. Ils pensent pas qu'ils sont incompétentes, là.
Non, pas du tout. J'ai pas senti ça. Mais j'aimerais ça entendre sur quoi, mettons, s'il compare ses études ou certaines choses qu'il voit dans son bureau ou autre, qu'elles peuvent prendre.
Oui, bien, regarde, je vais te dire, on a parlé de solutions, puis pour lui, c'est juste une question dont on ne prend pas le problème par le bon bout. Mm. Lui, en ce moment, sa peur, c'est qu'on transfère le problème. C'est-à-dire que là, on va demander à des IPS d'être en première ligne puis de faire un travail, bref, qui s'associe vraiment à celui de médecin, mais on ne valorise pas du tout le métier de médecin. Les conditions vont changer avec les années. Les IPS vont avoir plus de temps avec leurs patients, vont probablement être payés plus cher, parce que là, c'est ça aussi, en ce moment, elles veulent être payées pour le travail qu'ils veulent être ajouté, ce qui est normal. Fait que, tu sais, il y a vraiment une confrontation qui s'installe, qui n'est pas nécessaire, parce que ce qu'il me disait, c'est que la collaboration, elle est de pair. Ça va ensemble. Ils ont besoin d'elle et inversement, elles ont besoin d'eux aussi, tu sais. Fait que dans les solutions pour lui possibles, pour les médecins de famille, je vous le laisse entendre.
Bien, déjà, pourquoi il y a moins de gens qui vont en médecine familiale? De base, il y a le système de PREM qui existe seulement au Québec. Le PREM, c'est un système de licence que les nouveaux médecins de famille devaient aller chercher au gouvernement. Par exemple, à Québec, il y a un besoin entre 100 et 200 nouveaux médecins de famille par année. Ils donnent entre 10 et 15 licences pour envoyer les gens plus en région. Ça, on comprend que c'est pour inciter, tu sais, à desservir des régions éloignées, mais ça ne prend pas en compte les gens qui ont des familles, qui ont des obligations, des conjoints, des conjointes qui ne peuvent pas quitter la ville. Ça, c'est une des grosses contraintes que beaucoup de gens, pourquoi ils ne postulent pas en médecine familiale, c'est de ne pas avoir le contrôle où ils veulent travailler. C'est un peu la base des choses. Il y a aussi la lourdeur administrative qui doit être diminuée, aider. Il y a beaucoup de travail non rémunéré pour les médecins de famille, notamment la lecture des labos, la réponse, les appels aux patients qui ne sont pas rémunérés non plus. Donc, il y a beaucoup, il y a une certaine lourdeur qui doit être diminuée pour rendre le travail plus intéressant. Il y a aussi les activités médicales obligatoires. Donc, même si on a une licence, qu'on obtient notre licence dans notre endroit désiré, le gouvernement nous donne 2 ou 3 choix de ce qu'on doit faire. Mais quelqu'un qui excelle à l'urgence, par exemple, ou en obstétrique, il peut se voir obligé d'aller en CHSLD puis avoir un certain nombre de patients qui est jugé par le gouvernement. Mais tu sais, les forces de la personne ne sont pas là-dedans. La personne ne s'accomplit pas nécessairement dans un travail qui est obligé par le gouvernement. Donc, il y a quand même plusieurs pistes de solutions pour promouvoir la profession chez les étudiants. Il faut plus axer là-dessus, d'après moi. Là.
OK. Mais lui, il considère que ce qui est hors acte, donc remplir des dossiers et tout ça, il n'est pas rémunéré par le gouvernement. C'est ce que je comprends. Quand il doit appeler un patient, il n'est pas rémunéré. Mais faut-tu voir ça de façon globale? Tu es médecin, tu savais au départ, en te lançant en médecine, que tu allais avoir ce genre de geste-là à faire. Mm-hmm. Les médecins omnipraticiens sont autour de 300 et 350 000 $ par année. Tu comprends que tu es capable de faire un peu de travail à l'extérieur des actes que tu poses
là.
En cabinet.
Le point est vraiment loin d'être là. C'est plus de dire voici nos conditions actuelles en offrant cette nouvelle possibilité-là aux infirmières ou infirmiers praticiennes. Le point est qu'eux vont avoir des demandes, puis quand tu regardes à long terme, ils se rendent compte que c'est comme si la médecine familiale va s'éteindre dans ses conditions, dans salaire, dans tout, pour laisser place à, parce que ça prend moins de temps d'études, elles vont être payées, bon, un plus chères qu'elles le sont en ce moment, du moins. Elles vont avoir plus de temps aussi avec un patient. T'sais, les médecins de famille, ils ne trippent pas avoir 6 patients à l'heure et avoir l'impression d'avoir le bourreau dans le toupette.
C'est impossible.
Mais non, mais c'est pas le fun pas en tout. Il n'y a pas de plaisir là. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment juste une question d'équivalence à un certain point, de ce que moi je comprends, parce qu'il n'y en a pas d'équivalence.
Mmh. Le début de son
J'entends beaucoup d'argent dans ses propos. Là.
Mais le début de son discours, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu auprès d'amis qui étudient en médecine dans les dernières années. L'obligation d'aller en région, là.
Oui.
Puis de se déraciner de son secteur. Oui. Ça, par contre, c'est ça pas joue. La première fois que j'entends ça.
Ah, ça joue totalement. On a parlé d'argent, on y est allé en transparence parce que pour moi, j'avais le sentiment que c'est peut-être ce que les gens allaient se demander. Voyons, ce qui t'inquiète comme médecin de famille, c'est-tu que les infirmières soient payées plus cher, tu sais?
Mais par ses propos, on entend que l'argent est beaucoup important pour lui, là. Je le connais pas, là.
Ben, juste dans le dernier extrait qu'on a parlé où, effectivement, ça fait peut-être partie des solutions. Je vous laisse entendre par rapport à l'argent.
Un médecin, on voudrait bien avoir une heure avec une patiente, mais on serait payé 40$ de l'heure, ça n'a aucun sens. Là. Ça marche pas. Puis là, les infirmières praticiennes, tout de suite, dans plusieurs provinces, ils se battent pour un tarif horaire ou un tarif annuel pour un certain nombre de patients. Puis, tu sais, c'est un tarif ahurissant. Là. On parle de plusieurs centaines de dollars de l'heure, sans composante axée sur le nombre de patients. Mais, tu sais, un médecin de famille au Québec, actuellement, quand on est payé à l'acte, il n'y a pas le choix de voir 4 à 6 patients à l'heure parce qu'il faut qu'il paye. Son bureau, il faut qu'il paye 30% de tout ce qu'il charge à la RAMQ pour payer juste ses frais. T'sais, ça a aucun... Mais aujourd'hui, si on me dit que les infirmières praticiennes ont une heure avec un patient aujourd'hui, mais même au Québec, ils ne peuvent pas avoir le temps de tout ils n'ont pas les compétences pour tout gérer, mais c'est sûr que le patient va se sentir plus écouté. Il y a une heure, c'est juste une question de temps. C'est pas une question de qualité de l'acte. Là.
OK.
T'as l'air d'avoir quelque chose à dire.
Ouais, c'est juste que des fois, il y a certaines catégories de personnes, je le catégorise pas, je le connais pas, mais il y aurait peut-être avantage à parler avec le monde ordinaire aussi, ce que les gens ordinaires vivent. Là, t'sais. Nous autres, on est dans la salle, puis on attend des heures et des heures et des heures, puis t'as le médecin qui dit, ben là, moi, je travaillerai pas à 40 heures, à 40 piastres par de l'heure, ça n'a pas de bon sens.
Ouais, je pense que tu retiens pas la bonne chose, par exemple.
350 000 par année, tu me dis, t'es à l'argent à ce point-là.
Ouais, mais je pense que tu retiens vraiment pas la bonne chose, parce que dans le global de ses propos, là, enlève le dernier extrait, là, son message. J'ai pas mal plus sur la qualité des soins. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de ma discussion, puis peut-être que je l'ai pas fait transparaître dans les extraits que j'ai sortis à ce moment-là, je le prends sur ma faute.
Mais il travaille-tu pour le privé ou pour le public?
Il fait les deux.
Il fait les deux.
Okay. Dans une autre province, il travaille pour le public. Ici, ouais. Il travaille pour le privé.
J'ai une connaissance qui fait ça aussi.
Fait que oui, puis pour ses raisons personnelles, là, je pense qu'il aime bien voir la différence aussi des deux modèles à travers ça.
Lui, il travaille à Québec, mais il travaille pour les deux. Il travaille pour Québec, puis il travaille aussi en télémédecine à travers le Canada.
Bon, tu vois. Mais je pense que pour lui, c'est vraiment juste une question que ça va amener des problèmes. Quand je vous disais tantôt là, l'escalade d'investigation qui n'est pas nécessaire, là, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que pour lui, oui, il y a moyen de transférer des tâches puis d'avoir plus d'aide des infirmiers, infirmières, praticiennes. Pour lui, c'est quelque chose qui peut se faire. Sauf que lui, ce qu'il se dit, c'est... En bout de ligne, si Pascal, je suis infirmière praticienne, tu rentres dans mon bureau, puis parce que j'ai pas les mêmes études qu'un médecin puis que j'ai plus sa supervision, il faut que je fasse plus de tests, bien, j'amène une charge de travail de plus dans le système. Fait que pour lui, c'est une question que, bien, on roule carré puis on déplace le problème. Fait que pourquoi à ce moment-là, tu mets pas plus de conditions, pas d'argent, de conditions aux médecins de famille pour les attirer à vouloir étudier puis à venir faire ce métier-là? Moi, c'est ce que j'ai retenu du message. Ça, c'était l'autre côté de la médaille. Il y a deux façons de le voir. Pour nous directement, peut-être que ce sera positif. Au contraire, c'est les années qui vont nous le dire, mais je voulais quand même qu'on voit la différence des propos là, d'un côté et de l'autre.
C'est une job complète, ça!
On essaye.
Good job. Merci beaucoup, Audrey. On t'écoute avec Denis tantôt.
Oui.
T'as-tu la chance de voir les trois amigos, toi?
Oui. Hey, sérieusement, j'ai tellement hâte que vous entendiez le podcast cet après-midi. Agnès Maltais.
Moi, pour moi, ça, c'est un cadeau.
Ben oui. Agnès Maltais.
C'est mon occupation double là, ce soir.
C'est incroyable.
Pour certains, c'est occupation double. Moi, c'est ça, occupation double, ce qu'on vous présente à 16h.
Agnès Maltais, Gérard Deltel, puis
Sam Hamad
qui était là, les trois. Puis je pense que moi et Pascal, on a remarqué la même chose. La photo où Denis est. Il est très heureux. D'être là, puis moi je le jalousais là, parce que là je jasais avec le tech qui est en train de préparer le studio de podcast. Je dis, voyons, depuis quand tu fais le ménage? Il y a juste moi ici.
C'est pour moi.
On soit les trois amigos. Ben oui, c'est un groupe de musique qui s'appelle les trois amigos. C'est
Rock, après les deux
frères. Voisine, vas-tu venir ici?
Après les deux frères, les trois amigos.
Finalement, non, mais... j'apprends qu'Agnès Maltais s'en vient ici, sa maman et tout ça. Fait que j'ai très hâte d'écouter ça dans le retour tantôt.
Ça va être super intéressant. Puis pour avoir vu les retrouvailles dans le corridor avant qu'on ait enregistré, c'est l'affaire la plus touchante que que j'ai vu. On avait, moi puis Véro, on avait le gros smile.
Ben oui.
Il était tellement beau à voir, il était content d'être là. Puis j'ai l'impression qu'on... Ben, je dis, oh, je m'exclus de ça. Mon Dieu, Denis va avoir couvert pas mal tout en leur jasant pendant à peu près une heure. C'est à 16h cet après-midi. Ouais. Vous aurez l'occasion d'en jaser avec Denis tantôt, de ce que je comprends.
C'est trois mais... capitaines Québec. Là. C'est des gens qui aiment Québec vraiment beaucoup.
C'est des gens qui se sont pognés, puis au personnel, sont encore capables de faire les choses.
Ben, à mon sens, ils faisaient de la vraie politique.
Rappelez-vous, là, Pascal Bérubé et Geneviève Guilbeault dans le corridor, là, ça se pognait, mais ça se pognait au niveau personnel.
Ouais.
Dans le temps, eux autres s'obstinaient. Mais ils continuaient à évacuer leur
réputation.
Mais il y avait une collaboration. Ils savaient pourquoi ils s'obstinaient.
Donc, il y a un peu de jalousie chez Leclerc Communication. Puis on va tous être à l'écoute à 16h ce soir pour écouter les trois amigos. Agnès Maltais, Gérard Deltel et Sam Hamad qui étaient réunis grâce à toute l'équipe de Gravel dans le retour. On revient.
Marceau le midi.